Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Je suis en ligne avec Monsieur l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert, avec le général Latil et avec le général Ozanne. Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Bonjour,
bonjour.
En ce moment, depuis aujourd'hui, depuis ce 13 juillet, c'est l'exercice, on va le dire en anglais, Talisman Sabre 2025. C'est un exercice militaire bilatéral majeur entre l'Australie et les États-Unis, initialement. C'est un exercice conjoint entre ces deux nations. Ça combine des activités terrestres, aériennes, maritimes, spatiales, cybernétiques. Le tout est axé sur le combat multidomaine. Messieurs les généraux, vous êtes basés en France, vous êtes basés en Nouvelle-Calédonie. L'exercice se déroule sur plusieurs zones. Ça se déroule où exactement?
Alors cette année, pour la première fois, il a une zone étendue au-delà de l'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour une partie de l'exercice. C'est assez nouveau. Mais sinon, il est essentiellement focalisé sur l'Australie et autour de l'Australie, dans ses eaux les plus proches. Et nous participons sur la partie australienne et approche maritime de l'Australie.
Alors, je rebondis tout de suite sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puisque vous en parlez. C'est sa première participation. Est-ce que c'est une participation de taille, sachant qu'au niveau du calendrier, c'est aussi les 50 ans de l'indépendance?
C'est les 50 ans de l'indépendance. Nous y serons associés en tant que force de la zone. Et c'est toujours un plaisir pour les forces armées Nouvelle-Calédonie de participer aux cérémonies des États insulaires qui nous entourent. C'est une participation dont nous ne sommes pas contributeurs sur cette année. Mais nous avons très régulièrement des collaborations avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils étaient présents lors d'un exercice que j'organisais en Nouvelle-Calédonie en avril dernier avec une section de génie qui a pu être déployée à Wallis et Futuna. Donc c'est aussi de belles opportunités pour nous de travailler avec les forces armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Et le chef d'état-major des armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée était là ce matin aussi à l'ouverture de Talisman Sabre 2025 et se réjouissait avec les Australiens de l'extension de l'exercice à son territoire.
On disait que c'était un exercice conjoint entre l'Australie et les États-Unis, mais il y a 19 pays qui participent, plus de 30 000 personnes sur l'exercice 2025. Ça inclut la France qui, cette année, n'est pas observatrice. C'est quoi, du coup, le rôle de ces autres nations qui ne sont ni l'Australie ni les États-Unis?
Pour nous, c'est le déploiement d'environ 200 soldats qui viennent donc de Nouvelle-Calédonie dans les trois composantes terre, air, mer. Pour l'armée de terre, c'est pour la première fois des équipements blindés et des forces de reconnaissance essentiellement et une petite base d'infanterie ainsi que des troupes parachutistes qui seront parachutées d'un avion français qui vient lui aussi de Nouvelle-Calédonie. Donc, exercice à partir d'un avion français dans la nuit qui vient, mais aussi dans la semaine prochaine avec un avion américain. Et sur la composante maritime, c'est une frégate de surveillance qui participe à l'exercice. Frégate de surveillance qui a vocation à travailler dans la zone de responsabilité Pacifique Sud, mais qui est aussi assez régulièrement étend ses fonctions sur l'ensemble du Pacifique. Voilà pour la partie forces armées françaises locales.
En complément donc des forces qui arrivent de Nouvelle-Calédonie, donc il y a des unités qui arrivent de métropole et qui appartiennent à la division que je commande, la 3e division, qui est pour resituer un peu donc l'armée de terre. Aujourd'hui, il y a deux divisions, la première qui est plus focalisée sur la zone Europe et la 3e division que je commande donc sur la zone monde. Zone monde étant essentiellement Afrique, Moyen-Orient et la zone Indo-Pacifique. Donc, les personnels qui arrivent de métropole appartiennent à la 3e division. Nous, il y a environ 300 personnels, essentiellement des unités, une unité d'infanterie renforcée, mais quelques capacités spécifiques comme des groupes de commandos amphibies, donc pour la première fois qui participent. Et également, ce qui est pas beaucoup de, c'est pas du volume, mais c'est important. On a aussi des officiers insérés dans la chaîne de commandement de l'opération, ce qui est aussi une première par rapport à l'édition précédente de 2023. On était venu avec uniquement des unités qui participaient au niveau, bas niveau tactique, on veut dire. Donc là, on est plus inclus dans toute la chaîne de commandement de l'exercice.
Et les nations observatrices comme la Malaisie ou le Vietnam, par exemple, quel est leur rôle?
Je me permets de répondre parce qu'on est aussi parfois des nations observatrices dans certains autres exercices, pas d'ailleurs qu'en zone Indo-Pacifique, hein, ça peut être n'importe où, hein, en Afrique, en Europe, dans le Golfe. Donc le but, quand vous êtes nation observatrice, c'est que vous envoyez, ça peut être un petit détachement, quelques officiers, L'intérêt, c'est de voir comment se passe l'exercice dans la perspective d'y participer plus tard. C'est pas juste être présent, se contenter d'observer. C'est bien avec une idée de quel est l'intérêt, quelle est la possibilité pour notre pays ensuite d'y envoyer des moyens plus importants. Donc j'imagine, même si je veux pas me mettre à la place de ces nations, Malaisie et ainsi de suite, qu'ils viennent voir dans la perspective d'y participer, j'imagine, dans le futur.
La Chine n'est pas nation partenaire, mais le gouvernement fédéral disait ce matin qu'ils éliminaient pas la possibilité qu'elle puisse observer d'un œil ce qui allait se passer pendant l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a à craindre de cette observation ou est-ce que ça serait tout à fait normal et totalement probable?
Laissez
Bon,
Monsieur l'ambassadeur répondre.
La Chine n'est donc ni participante ni observatrice officielle de l'exercice Talisman Cyber. Après, c'est une nation de la zone dans laquelle elle déploie des moyens, donc je n'ai pas plus à ajouter que ce que les autorités australiennes ont ajouté, fondamentalement, qui est de constater que si une nation est présente dans la région et qu'elle déploie des moyens pour regarder ce qui se passe dans une région, voilà, ça vous appellerait ça observation. Mais en tout cas, je n'ai aucune information de nature particulière liée à l'opération d'aujourd'hui, Talisman Cyber.
Je profite que ce soit vous qui répondiez, monsieur l'ambassadeur, pour vous poser une autre question. Deux questions en une. Est-ce que c'est la plus grande édition à ce jour, la Talisman Cyber 2025? Et est-ce que les dernières éditions, donc 2023 et 2025, ont un goût différent depuis l'affaire des sous-marins?
Moi, je pense qu'il faut remplacer le Talisman Cyber 2025 et la participation française dans l'ensemble de l'activité de coopération en matière de défense entre la France et l'Australie. Nous participons chaque année à des exercices internationaux entre France et Australie, qu'ils soient destinés à des répétitions et d'exercices liés à des crises, des désastres naturels. C'est le cas de Croix du Sud, et donc le général Latil est beaucoup mieux placé que moi pour en parler, qui réunit les forces du Pacifique, mais pas que, pour travailler et s'entraîner à la survenance d'un événement climatique majeur qui a un impact fort dans la zone, et il y en a beaucoup. C'est aussi comme nous l'avions fait l'an dernier avec l'opération Pitch Black, qui était là en fait un exercice conjoint avec l'armée de l'air française et l'armée de l'air de nombreux pays européens, comme de nombreux pays de la zone et aussi des Américains. Donc en fait, j'allais dire, pour être bien préparé, il faut bien s'entraîner. Et donc, les exercices avec les partenaires, dont fait partie l'Australie, sont à la fois fréquents et quand ils gagnent en grande dimension, bah, tout le monde y apprend beaucoup plus.
Si on rentre maintenant un peu plus dans le concret de comment va se dérouler cette édition 2025, concrètement, quel est l'objectif de cet exercice qui a lieu tous les 2 ans?
L'objectif pour nous, il est double. Le premier, il est d'apprendre et d'améliorer notre interopérabilité avec nos partenaires. Donc, je vous l'ai dit, on va sauter d'avions français, mais on va aussi sauter d'avions américains. Le général Ozan nous disait qu'on était aussi intégré dans l'ensemble de l'état-major, donc ça nous permet d'apprendre les fonctionnements, les spécificités de cette zone. En Europe, on a un cadre qui est assez structuré, c'est l'OTAN, c'est pas le cas dans le Pacifique, donc on doit encore progresser sur ces sujets-là. Et le deuxième, c'est aussi d'être visible, d'être vu comme une force dans le Pacifique qui a un rôle à jouer. Et c'est aussi le message qu'on veut donner en étant ici à double titre par les forces déjà présentes dans le Pacifique que je représente, mais aussi par les forces qui viennent de métropole, avec un challenge que vous pourra vous décrire le général Ozan, parce que se déployer à 15 000-17 000 km, c'est un vrai défi logistique.
Vous voulez nous parler de ce challenge, général Ozan?
Pour rebondir aussi sur ce qu'a dit le général Latil, en fait, quel que soit le thème, le déroulement de l'exercice, quand c'est des exercices interalliés ou qu'il se passe, quelle que soit la région, l'objectif est effectivement toujours le même, travailler l'interopérabilité entre toutes ces armes. C'est à la fois technique pour que nos moyens de communication arrivent à se parler, on puisse échanger de la donnée, mais c'est également la manière dont on manœuvre, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes doctrines. Donc, quel que soit le thème, le déroulé de l'exercice, c'est toujours ça l'objectif, où qu'on soit, c'est d'apprendre à travailler ensemble, puisque maintenant, on agit le plus souvent au sein de coalitions. Et donc, pour pouvoir agir le jour J en coalition, il faut s'être entraîné avant. On ne peut pas s'engager avec des nations avec lesquelles on n'a jamais travaillé sur un théâtre d'opération réel, bien évidemment. Après, sur l'affaire de la projection, alors l'armée française a quand même des vrais savoir-faire en termes de projection. C'est certainement après les États-Unis, l'armée occidentale ou des nations alliées qui est la plus habituée à se projeter sur un théâtre d'opération loin de la métropole. Donc on a l'habitude, c'est vrai que là les distances sont particulièrement élevées puisqu'on est à 17 000 km, vous rajoutez les contraintes d'entrée sur le territoire. Donc tout ça fait que même pour projeter un détachement de 300 personnes de la métropole, c'est plus d'un an de planification et une anticipation importante pour faire embarquer nos matériels qui sont partis de Toulon il y a 3 mois, j'ai pas les dates exactes. Voilà, donc c'est des choses qu'on sait faire, mais c'est un peu plus compliqué que d'habitude parce que là il y a la contrainte de la distance et de règles spécifiques pour rentrer des équipements sur le territoire australien.
Vous parliez de savoir-faire déjà ancré, déjà acté, mais est-ce que là, vous allez tester également des nouvelles technologies?
Pas particulièrement, c'est enfin, du côté des unités qui arrivent de France, non, on est avec nos équipements modernes, on va pas, enfin, qu'on maîtrise, qui sont issus de pour tous les tout ce qui est équipement individuel, matériel de communication du programme Scorpion, qui est le gros programme de transformation de l'armée de terre. Donc, on ne teste pas à proprement parler de nouvelles technologies qu'on n'aurait pas utilisées déjà en exercice.
Non, mais pour la première fois, on va déployer des drones, par exemple, enfin, des drones de taille significative en Australie. C'était le cas jusqu'à présent, on savait faire en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'on fait participer ce type d'équipement. Mais c'est pas un test. Ces tests ont déjà été conduits en métropole, validés en Afrique, testés à nouveau en Nouvelle-Calédonie pour être sûr que tout ça fonctionne bien dans l'hémisphère sud avant de les engager en Australie.
Monsieur l'ambassadeur, je pense que mes deux prochaines questions, elles sont plus pour vous. Est-ce que ces exercices militaires sont compatibles avec la préservation de la faune et la flore endémique à l'Australie?
Je crois que nos amis australiens sont extrêmement précautionneux de la préservation de la faune et de la flore et sur les protocoles de biosécurité. Même dans ces opérations-là, les Australiens sont extrêmement précautionneux et font vraiment attention à ce qu'il y ait en termes de biosécurité, mais aussi en termes d'impact pour que leur nature et leur pays soient préservés.
Je peux vous donner un petit exemple sur la Nouvelle-Calédonie. Je disais, c'est la première fois qu'on déploie des blindés en Australie. La manière dont ça s'est fait, c'est qu'on a préparé ces véhicules en Nouvelle-Calédonie en les passant sur des opérations de nettoyage considérables. Un agent des services sanitaires australiens est venu en Nouvelle-Calédonie pour constater l'embarquement dans des containers isolés de nos équipements. Ils ont été embarqués, isolés, scellés, et mis sur un bateau et décelé à l'arrivée sur le territoire australien. Donc, de manière à ce qu'il n'y ait pas un champignon, un insecte pour perturber la biodiversité de l'Australie. Donc c'est très très rigoureux. La même chose pour nos parachutistes. J'évoquais les sous-marins. Ils ont été inspectés, mis sous scellé après l'inspection qui a été faite en Nouvelle-Calédonie.
Monsieur l'ambassadeur, je vous donne le mot de la fin.
La coopération militaire qui est importante entre la France et l'Australie, elle s'inscrit dans la feuille de route que nous a fixée le président de la République sur sa stratégie Indo-Pacifique, qu'il est venu réexpliquer en personne au Shangri-La Dialogue à Singapour en mai et qui a eu un discours extrêmement fort et important sur ce que veut dire être un État indépendant dans le monde et dans la région. Et que avec l'Australie, on décline aussi cette stratégie dans notre feuille de route bilatérale et qu'on est pleinement en fait dans la déclinaison de ce que le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre Anthony Albanese avaient commencé à sceller dès 2022 lors de leur première rencontre.
Pour vous le traduire concrètement sur le terrain, je termine 2 ans de commandement. J'ai dû venir une vingtaine de fois en Australie. Je pense que j'ai rencontré 5 ou 6 fois le chef d'état-major de l'armée de terre australienne, par exemple. J'ai dans mon état-major une officier, lieutenant-colonel de l'armée de l'air australienne, avec qui nous partageons l'ensemble de nos informations. On a des officiers insérés dans les états-majors australiens. Ici, on a des Australiens insérés comme officiers de liaison à Paris dans nos états-majors. Il y a une collaboration permanente. Ça a commencé de manière très dense avec le sommet des ministres, le SPDMM, sommet des ministres du Pacifique Sud-Ouest qui s'est tenu à Nouméa en décembre 2023, où les ministres des forces armées du Pacifique Sud se sont réunis. La présence de Monsieur Lecornu, de Monsieur Marles, évidemment, ça s'est traduit à travers différents exercices. On évoquait Croix du Sud avec une participation australienne, armée de terre, armée de l'air, marine. Précédemment, on a conduit des exercices en Nouvelle-Calédonie avec des forces terrestres australiennes. Moi, j'ai envoyé à 3 reprises des troupes en Australie dans des exercices beaucoup moins visibles en bilatéral. Je suis binommé, moi, Forces armées Nouvelle-Calédonie avec la 7e brigade australienne. Donc, c'est une collaboration qui est permanente, très visible sur Talisman Sabre. On veut la montrer visible, mais elle est quasi, quasi quotidienne.
Général Latil, merci beaucoup. On était également en présence de Général Ozan et Monsieur l'ambassadeur de France en Australie, Pierre-André Humbert. Merci, messieurs.
Merci.
Merci
Merci beaucoup.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.